Bien. Alors, la deuxième chose dont on a parlé la dernière fois, donc dans le cours précédent, c'est le problème des concepts. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu le problème des concepts, il y a le mustalahat ou le mafahim, les concepts. Lorsque l'islam est venu, il a mis en place un certain nombre de vocabulaire. Ce vocabulaire a été défini, bien ficelé, et par les savants, par Sahaba, ou par les gens qui sont venus après Sahaba, Tabi'in, etc. Et ces vocabulaires-là, ils ont été définis, ficelés, après quoi tous les savants de tous les temps et de toutes les époques savaient ce de quoi il s'agissait quand on disait, par exemple, le mot sunnah, le mot madhhab, le mot ijtihad, le mot salaf, le mot salafi, ainsi de suite. 14 siècles sont passés comme ça. Et il y a à peu près un siècle de ça, il y a eu un chamboulement de tout ce vocabulaire, comme j'ai dit la dernière fois, où tout a été chamboulé, et ces termes-là ont commencé à être utilisés par n'importe qui, n'importe comment. Certains l'utilisaient à tort et à travers, exprès et d'une façon volontaire, et ils savaient ce qu'ils faisaient, et ils savaient quels sont les résultats qu'ils allaient obtenir en faisant ça. Et il y a d'autres gens qui l'utilisent comme ça par ignorance. Ils ont entendu les gens dire, ils commencent à dire comme ce qu'ils ont entendu, soit à la presse, soit chez des gens qui n'ont ni science, ni ilm, ni quoi que ce soit. Et donc, nous vivons une époque où ce genre de choses doit impérativement et d'une façon très, très urgente de redéfinir un certain nombre de choses si on veut de nouveau se retrouver effectivement salafiyin de fait, mais pas salafiyin de nom ou de titre. Allez. Et donc là, il y a beaucoup de, malheureusement, de ce vocabulaire qui a été... aujourd'hui, on va essayer donc de reprendre un de ces termes qui sont très importants et qui ont été utilisés à tort et à travers, des fois volontairement, des fois involontairement par ignorance, et sur lesquels, malheureusement, beaucoup de dégâts ont été faits en utilisant justement ce chamboulement dans le vocabulaire. Alors, parmi ces termes, il y a le mot sunna. Le mot sunna. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est sunni, à quoi ça nous fait penser ? Sunni, c'est quelqu'un qui a une barbe qui descend jusqu'au nombril. Alors, le cas de sunni, il a une grosse barbe. Et l'autre qui a une petite barbe ou qui n'a pas de barbe, ah non, lui, il n'est pas sunni. Quelqu'un qui rentre dans une mosquée après Salat al-Asr, il fait deux rak'a. Ah, lui, il est sunni. Et celui qui ne fait pas, il rentre dans une mosquée après l'Asr, il s'assoit, non, lui, il n'est pas sunni. Celui qui fait deux rak'at avant le maghrib, lui il est sunni, il suit la sunna. Et l'autre qui ne fait pas deux rak'at avant le maghrib, lui il n'est pas sunni. Est-ce que, au temps de Sahaba déjà, et le long des 14 siècles qui se sont écoulés, le mot sunni portait ce sens-là? Ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Et On se trouve donc devant le mot sunni, qui veut dire appartenir à Ahlus Sunnati wal Jama'a. Comment le terme a été vidé? Et on commence à parler de sunni, quelqu'un qui des fois, je le dirais très franchement, se déguise en clown, on dit de lui il est sunni. Allez. Le mot sunna. Le mot sunna, qu'est-ce qu'il veut dire le mot sunna? Le mot sunna veut dire tariqa, la méthode, ou le chemin à suivre, ou la façon de faire. Et quand on parle de sunna, sunna de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, le mot sunna ici, il englobe, bien sûr quand on dit sunna c'est le chemin à suivre ou le sentier à suivre, ça c'est donc dans le langue, dans le sens, dans la langue d'une façon très très générale. Je peux utiliser, si j'ai une méthode par exemple pour jardiner, hein, je dis moi j'ai une sunna. Ça n'a strictement rien à voir dit avec l'islam, ni avec... Dans la langue arabe, on peut utiliser ça déjà pour dire une façon de faire. Non ? Ça peut être une tradition. Mais pas forcément liée à l'islam ou à Nabi alayhi salatu salam. Dans la langue arabe, le mot sunna il peut être utilisé comme ça d'une façon très générale. Mais dès qu'on rentre dans le sharia al-islamia, dans les sciences du sharia al-islamia, le mot sunna, il prend un sens plus restreint. Et à ce moment-là, le premier sens qui est utilisé, c'est la tradition, la façon de faire, le chemin à suivre, mais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le mot sunna d'une façon générale. Et dans quoi le suivre? Dans quoi? Tout. C'est tout l'islam qui est sunna. C'est tout ce que le Nabi a enseigné et a apporté qui devient, qui rentre dans le mot sunna. Allez. Ensuite, ce terme-là, il a été utilisé dans diverses disciplines. On l'a utilisé dans ilm al-fiqh, on dit sunna. Ulama al-hadith, ceux qui s'occupent de réunir les hadiths, de rédiger, d'écrire les hadiths, de ramasser le maximum et de réunir le maximum de hadith, eux ils parlent de sunna. Ulama al-usul, usul al-fiqh, ces gens-là ils s'occupent de quoi? Ils s'occupent des règles qui permettent une bonne compréhension d'un texte. Ils vous disent que bon, ce texte, voilà ce qu'il dit, mais attention, ce texte-là, il faut le comprendre dans ce cadre et ne pas comprendre comme on veut. Ces gens-là, ils utilisent aussi le mot as-sunna. Est-ce que le mot sunna, il a le même sens que celui qu'on a cité au début? Même sens dans le fiqh? Le même sens dans ilm al-hadith? Est-ce qu'il a le même sens dans usul al-fiqh? Bien sûr que non. Donc, d'une discipline à une autre, le mot sunna change de sens. Et ça, c'est tout à fait normal. Le vocabulaire est un outil important, très important, dans une communauté quelconque qui a un savoir commun, et toute communauté a besoin d'un certain vocabulaire pour qu'elle puisse, un vocabulaire commun, pour qu'elle puisse dialoguer et se comprendre. Ceci existe dans toutes les sciences du monde, et donc, dans l'ilm al-hadith, ulama al-hadith, eux, vu de quoi ils s'occupent, ils ont utilisé le mot sunna en lui donnant un sens. Ulama al-usul, vu de quoi ils s'occupent, ils ont pris le mot sunna et ils lui ont donné un sens. Ulama al-fiqh, vu de quoi ils s'occupent, ils ont pris le mot sunna et ils lui ont donné un sens. D'accord? Donc, fais le fiqh, par exemple. Quand vous disiez, par exemple, fara'id al-wudu, sunan al-wudu, que veut dire le mot sunna? Est-ce que le mot sunna dans le fiqh veut dire tariqa, ou le chemin à suivre, ou la tradition? Oui ou non? Le mot sunna, quand on dit al-wudu, le fait de se laver le visage est fard. Le fait de se laver la bouche, de se rincer la bouche, c'est sunna. Est-ce que ça veut dire tariqa ici? Est-ce que ça veut dire la méthode à suivre? Bien sûr que non. Le mot sunna ici, il faut savoir dans quel sens il est utilisé. Le mot sunna ici, il est utilisé pour dire que c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal nous a recommandé de faire, et ce que Allah Azza wa Jal nous a recommandé de faire, mais tout ce que Allah Azza wa Jal nous a recommandé de faire n'est pas au même degré, n'est pas au même degré d'importance. Il y a des choses qui sont impératives à faire. Il y a des choses qui sont moins importantes à faire. Alors, le ulama, pour différencier entre ça et ça, ils ont dit, ce qui est obligatoire, on va l'appeler wajib, fard, obligation. Ce qui est demandé, mais pas d'une façon obligatoire, ce qui est demandé à titre surérogatoire, on va l'appeler sunna. Voilà ce que veut dire le mot sunna dans la discipline qui s'appelle le fiqh. Donc vous voyez comment on change. Et pour avoir les idées claires, quand on dit sunna, il faut savoir de quoi on parle. Donc depuis tabi'in, l'âge de tabi'in jusqu'à nos jours, quand on dit le mot sunna, par exemple on dit les dorka'a avant dor et sunna, tout le monde comprend qu'il s'agit d'une prière qui n'est pas obligatoire, qui est recommandée, mais qui n'est pas recommandée d'une façon obligatoire. Donc voilà un des mots, ou la défense du mot sunna, comme il est utilisé par les ulama al-fiqh. علماء الحديث علماء الحديث eux de quoi ils s'occupent? C'est quoi son souci, العالم الحديث? C'est pas de dire ceci halal ou ceci haram ou là هذا واجب هذا ماشي واجب. العالم الحديث ولا المحدث, son souci c'est de récupérer tout ce qui tourne autour de la personne du Nabi عليه الصلاة والسلام, et donc ses paroles, son comportement, sa façon de marcher, c'est très physique, c'est très moraux, etc. Même c'est très physique. Tout ce qui touche à la personne du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, ça l'intéresse. Pourquoi? Parce que lui, son souci, c'est quoi? C'est de ramasser le maximum d'informations sur la personne du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que veut dire le mot sunna ici? Alors, dans une définition,
le comportement du prophète,
pas seulement le comportement, parole, tout ce qui est en relation avec Rasulullah, son comportement, ses paroles, ses gestes, même la couleur de ses cheveux. D'accord? Parce que le muhaddith, c'est quoi son souci? Je veux savoir le maximum de choses sur Rasulullah. Je récupère toutes les informations concernant ce personnage. Allez, salatu salam. Donc, tout ce qui peut toucher à sa personne, pour moi, en tant que muhaddith, il est sunna. Et donc, on vous parle de son comportement, comment il se comportait en tant que mari, comment il se comportait en tant que chef d'État, comment il se comportait en tant que juge ou la qadi, comment il se comportait en tant que kada, en tant qu'éducateur, en tant que ou hada kullu dakhil fi sunna. Donc voilà le mot sunna, il a donc ici un autre sens chez le muhaddithin. D'accord? C'est clair? Bon, je pense que maintenant, que veut dire le mot sunna عند الاصوليين? Osoliyin, c'est les gens qui s'occupent de osol al-fiqh. Usul al-fiqh, c'est cette science qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe de mettre en place des règles qui nous préservent la compréhension, pour ne pas dériver dans sa compréhension d'un texte. Je prends un texte, je veux le comprendre. Est-ce que je le comprends comme ça en main levée? Ou est-ce qu'il y a des règles pour comprendre ce texte? Et pourquoi je dois comprendre ce texte? Pour arriver en fait à ce qu'on appelle le fiqh. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Donc, sunna, ils ont utilisé aussi le mot sunna. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le mot sunna là, chez eux? Donc un homme, un l'osolien, le mot sunna, c'est toute chose qui a une relation avec le Nabi alayhi salatu salam, mais en tant que prophète. Pourquoi? Parce que moi je suis en train, l'osolien est en train de mettre en place des choses pour comprendre qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire, à travers un texte. Donc à travers un texte, c'est le Coran, à travers un texte, c'est aussi sunna. Donc, que veut dire le mot sunna ici? Tout ce qui se rapporte à Nabi alayhi salam, mais en tant que prophète. Pas en tant que personne, même si elle est, si elle est prophète, mais en tant que personne, en tant que personne à suivre. Donc, par exemple, est-ce que la couleur des yeux ou la couleur des cheveux, est-ce qu'elle rentre dans le sunna? Bien sûr que non. D'accord? Moi, je prends mon souci chez Oswal Fiqh, le souci de suivre, d'extraire quelque chose à suivre, à mettre en place pour que les gens suivent. Mais que vient faire, par exemple, la couleur des cheveux? Elle ne rentre pas en ligne de compte. Donc, c'est toute chose qui se rapporte à Nabi alayhi salatu salam, toute chose qui se rapporte à ce personnage, mais en tant que prophète, en tant que législateur, en tant que personne à suivre, là, le mot sunna, il est à peu près le même que chez le muhaddithin, mais avec des restrictions. Les traits moraux, ça nous intéresse, mais les traits physiques, Nabi alayhi salam, ne rentrent pas en ligne de compte chez les gens qui s'occupent de usul al-fiqh. C'est clair ou la différence? C'est bon? Donc vous voyez, ça c'est des choses qu'il faut se mettre en tête et qu'il faut que ça soit clair dans les têtes. Quand je parle de sunna, il faut savoir de quoi je parle. Et sunna ou la sunni, ce n'est pas seulement qu'il y a une baya, ce n'est pas seulement qu'il y a une shashia, et ce n'est pas seulement quelqu'un qui a une grosse barbe qui est sunni. Loin de là.
Non. La définition du mot sunna, quand on entend dans, par exemple, sunnatullah fi khalqihi.
Voilà, par exemple, la sunnatullah fi khalqihi, ici ça veut dire quoi? La règle qui est suivie, que Allah Azza wa Jal a mis en place, et donc d'habitude il applique ça.
Donc la règle de Dieu.
Et donc Allah Azza wa Jal, il nous a toujours fait savoir que les peuples qui dérivent et qui lui tournent le dos, la fin de ces peuples-là, elle est connue. Donc, depuis Nuh alayhi salam, Hud, Sidna Salih, Sidna Moussa, Sidna Isa, etc. Tous les prophètes, les peuples qui ont tourné leur dos à leur prophète, on sait quelle a été leur fin. Et c'était la même fin. La même fin chez tout le monde, ça veut dire qu'on a ici quoi? On a une règle à observer. Et Allah Azza wa Jalla nous dit Sunnatullah illati. Comme tu dis. Par exemple. Donc là, c'est bien de faire la différence quand on lit le mot sunna au Coran, il est venu comme ça, et selon donc, de bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ici, qu'est-ce qu'il veut dire là, qu'est-ce qu'il veut dire. Ce problème de vocabulaire, il est le même dans toutes les sciences du monde, donc tous les scientifiques, toute la communauté scientifique, par exemple, qui est liée par une science donnée, ont un vocabulaire qui est commun et qui est propre à eux, qui n'est pas forcément le même que notre communauté. Vous prenez par exemple le mot plasma. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que veut dire le mot plasma?
Ça peut être du son, ça peut être un écran, ça peut être...
Ça peut être un écran.
Enfin, un téléviseur, plasma, écran, plasma.
Eh bien, normalement, si vous avez compris, je vous dis que veut dire le mot plasma. Tout de suite, vous allez me dire dans quelle discipline. Si vous parlez, par exemple, si vous rentrez entre le, dans la communauté des physiciens, le mot plasma, il a un sens qui n'a strictement rien à voir avec le plasma qui est le mot plasma utilisé chez les médecins. Non? Par exemple, en médecine, le mot plasma, il veut dire ben, ce liquide, le liquide qui est la base du sang et qui est porteur des globules rouges, des globules blancs, des globules machins, etc., etc. Ça s'appelle chez les médecins le plasma. Si vous allez chez les physiciens, le mot plasma, il veut dire autre chose. C'est un gaz un peu spécial, c'est la quatrième, le quatrième état de la matière, c'est des gaz ionisés. Et ça n'a strictement rien à voir avec le plasma des médias. Et c'est tout à fait normal. Donc quand on me dit, moi, ça faisait quoi le plasma, ben le mot virus, c'est quoi le mot virus? C'est quoi un virus? Voilà, donc il faut tout de suite réagir en disant, dans quel domaine on va se placer? Si on va dans les sciences biomédicales, le mot virus, il a un sens. En informatique, le mot virus, il a tout un autre sens. Et c'est tout à fait normal. Du moment qu'on sait dans quel domaine on est, on comprend de quoi il s'agit quand les gens parlent et utilisent un terme.
Les sens se rapprochent quand même. Comme si on etc. Ça se rapproche.
C'est clair que ça se rapproche, heureusement. C'est clair que ça se rapproche. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a quand même il y a un sens qui est commun. Mais il faut savoir avoir l'esprit clair. Quand on parle de ça, on parle de ça. Quand on parle de ça, on parle de ça. Quand on parle d'autre chose, on parle d'autre chose. Aïwa. Maintenant, c'est ça, c'est à ça que je voulais venir maintenant. Une fois que tout ça s'est réglé, on entend donc très souvent le mot Ahl Sunna wal Jama'a. Que veut dire ici aussi Ahl Sunna wal Jama'a? Que veut dire le mot Sunna ici? Qul hada Sunni wala Mu'tazili wada Shi'i wada min al-Khawarij. Dans quel sens le mot Sunna est utilisé ou la Sunni ici est utilisé?
Voilà.
Pas forcément le consensus. Donc là, il faut...
Communautaire.
Hein?
Dans le sens communautaire.
Comment communautaire, c'est-à-dire?
Al-Sunnah al-Jama'a, c'est une communauté qui est différente de Shia.
Majoritaire.
Tiens, non?
C'est des gens de la tradition prophétique, coranique, ou Al-Jama'a, et du consensus, c'est-à-dire l'Ijma, des savants, etc.
Attends, l'ijma' c'est une chose, l'ijma' c'est le consensus. Voilà que l'ijma' c'est le groupe. D'accord, c'est l'ijma' ou l'ijma' c'est pas la même chose. L'ijma' c'est le fait d'être d'accord sur un point, tout le monde à l'unanimité. Voilà que l'ijma' c'est le groupe. Bien. Maintenant, pour redéfinir cette notion de Sunna ou Jama'a, il faut aller puiser un peu dans l'histoire. Et je vous dis tout de suite que ce terme-là, c'est parmi les termes qui sont très très dangereux, et c'est un des termes qui, s'il devient pas clair dans les esprits, Salam al-Islam. C'est un terme qui est très important C'est un terme qui est très dangereux. Et ce n'est pas pour rien que certains viennent nous donner des conseils, des bons conseils, entre guillemets, pour nous dire eh, « vous êtes musulman, vous avez le Coran, vous avez le Sunna, pourquoi c'est sunni, pas sunni, etc. » Il faut tout en être aussi ikhwa. Je veux bien être ikhwa avec tout le monde. Mais il faut savoir de quoi il s'agit aussi. Je veux bien être ikhwa avec tout le monde, mais il faut bien savoir qu'est-ce qu'il veut, celui qui me donne ce conseil. D'accord ? Et ça, c'est une chose qui est très, 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 très importante. Un Nabi, alayhi salatu salam, une fois, voilà, avant de commencer, donc, avant de donner cette histoire-là, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, l'islam s'est répandu, au moins dans la péninsule arabe, et Sahaba, il se comptait par milliers. Au Sahaba, ils étaient tous un seul bloc, un seul corps, tous réunis autour du Nabi alayhi sallam, tous uniques dans leur façon de voir, tous uniques dans l'aqida, tous uniques dans le fait de suivre Sunna. Et à ce moment-là, dans quel sens ? Tariqa. La tradition du prophète, alayhi salatu salam, sans rentrer dans les détails. Donc, Sunna, ici, elle prend ce sens-là, le tout premier sens qu'on a expliqué. Nous avons un seul modèle, une seule façon de faire, c'est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on suit Rasul, alayhi salatu salam, et sahaba tous en entier, ou tous ensemble, ou un seul corps. Ils étaient dans cette vision, ils étaient dans cette logique, ils étaient dans cette lignée, ils étaient dans ce chemin-là. Rasul alayhi salatu salam, comme le Coran, nous ont promis que l'Umma islamia ne va pas s'égarer dans sa totalité. Mais, elle ne nous a pas garanti que certains individus, à titre personnel, ou peut-être même suivi d'un certain petit groupe, il ne nous a pas garanti qu'il n'y a pas de dérive. Ça, bien au contraire, le Nabi alayhi salam nous a mis en garde en nous disant « Faites attention, parce qu'il y a des gens qui vont s'écarter du groupe, du corps de l'Umma al-Islamia. » Et donc il a parlé de choses qui vont venir après lui. Et c'est là où on peut citer le fameux hadith où le Nabi sallam dit وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ كُلُّهَا فِي النَّارِ. Donc l'Umma elle va donc beaucoup de gens vont dévier et on va trouver donc plus de 73 groupes tous dans le Nar sauf une. Sahaba, il répond en disant laquelle, le Nabi A.S. il dit, celle qui me suit et qui suit mes compagnons. Illa man kana ala ma ana alayhi wa ashabi. Dans ce hadith, il y a d'abord le fait que la dérive, il y a une dérive. Il y a une deuxième information, c'est que Sahaba, ils ne dérivent pas. Et donc ce sont des gens, des modèles à suivre. Et voilà. Il y a une histoire. Quelqu'un est venu chez Nabi alayhi salatu salam. Il lui dit, I'dil ya Rasulullah, sois juste ya Rasulullah. Nabi alayhi salam, il s'est mis en colère. Et c'est pas pour lui qu'il s'est mis en colère, parce que cette expression-là, c'est grave. Tu dis à un prophète d'être juste, et si le prophète n'est pas juste, qui peut être juste alors dans ce monde? فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ وَيْحَكْ إِلْ لَمْ أَعْدِلْ أَنَا فَمَنْ يَعْدِلْ. Si moi je ne suis pas juste, qui peut être juste alors? وَيْحَكْ. Malheur à toi, guerre à toi. Le sahaba qui était présent, ils ont essayé, ou là ils ont voulu, Sidna Ali ibn Abi Talib, il a dit, laisse-moi ce bonhomme-là, je vais le régler son sort. Nabi Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, da'ahu. Da'ahu, donc laisse-le. Da'ahu, fa'innahu sayakhruju minhu, ou comme a dit Nabi Azza wa Jalla, mais laissez-le dans le lavn, sayakhruju minhu, qawm. Donc, parmi sa descendance, il y aura des gens qui seront dans l'égarement. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصلون ويصومون. C'est des gens qui prient. C'est des gens qui font le Ramadan. C'est des gens qui, lorsque ils prient, vous allez vous voir devant eux très mince. Donc tellement ils font tellement de prières, tellement de siyam à l'abondance que vous allez vous dire, mashallah, ces gens-là, c'est des grands adorateurs. والنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج منه يعني من ضمن يعني من صلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج من صلبه ناس يصلي ويصوم أكثر منك donc il prie plus que vous, il jeûne plus que vous, mais ils sortiront de din comme la flèche sort d'un arc. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que faites gaffe des gens qui peuvent s'écarter. Restez donc avec le groupe. سنأتي إن شاء الله سنأتي. نعم. Donc, ce bonhomme-là, après Nabi alayhi salatu salam, on l'a trouvé mort dans les rangs de ce qu'on appelle le khawarij. On l'a trouvé dans le rang de gens, après une bataille, mort dans les rangs de ce qu'on appelle le khawarij. Donc ça c'est firqa min kharajat an l'islam. Et donc les sahaba, ils ont compris par ce hadith-là que le khawarij, qui donc firqa comme qui s'est écarté, qui s'est égaré de l'islam, que cette firqa là, qui était connue par Sahaba, était bien une firqa égarée. Comment ils ont su ça? Ils ont extrait ça du hadith, de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a dit sur Ali ibn Abi Talib, قال تهلك فيه طائفتان. Yassine Ali, deux groupes vont s'égarer et vont devenir dans ces cas vont dériver en vu leur position et leur comportement avec Sidna Ali ibn Abi Talib. Un groupe qui va l'aimer et le placer au-dessus de ce que il est réellement, et un autre groupe qui va le haïr, l'aimer à fond. فرقة تبغضه يعني بغضا وحقدا صوك سي الخوارج كيزون برونونسي كو علي بن ابي طالب كافر دايوغ سون او كيلون اساسيني وفرقة تحبه كي فا ليمي مي ال فا لو بلاسي او دوسو دو سو كو الله عز وجل لي دوني كوم غون اي دونك اون تروف اون ا تروفي بار لا سويت دي جون كي سون فينو prétendant aimer la famille du prophète alayhi salatu salam, et ils ont trouvé cette porte-là pour commencer à insulter tous les sahaba. Et donc parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont rendu Sidna Ali, qui l'ont déclaré, qui était lui-même Allah Azza wa Jal. Allahu, ils ont dit c'est lui Dieu. Wahdukhirin qalou, Sidna Ali il est placé au-dessus de tous les prophètes. Il y a Muhammad alayhi salatu salam, et juste après c'est Ali ibn Abi Talib. Ainsi que sa descendance. Ils vous disent par exemple que Ali, Al-Hassan ibn Ali, Al-Hussein ibn Ali, Zain al-Abidin ibn al-Hussein, Muhammad al-Baqir, Ja'far al-Sadiq, Moussa al-Kadhim, c'est des gens qu'on les place au-dessus de Moussa alayhi salam. Est-ce qu'ils ont été décrits par le Nabi alayhi sallam, oui ou non? Oui. Donc à travers ces hadiths-là, on a su qu'il y a des corpuscules qui vont se détacher du corps de l'Umma al-Islamiyya, et donc l'égarement, il était là. Maintenant, Sidna Abdullah ibn Omar, il y a aussi des gens qui se sont égarés dans d'autres domaines, comme le Qadariya, un groupe qui s'appelle le Qadariya, qui ont fait leur apparition autour de Sidna Abdullah ibn Omar, autour de Sahaba. Et Abdullah ibn Omar lui-même, il les a combattus, bien sûr, par la science et par le débat. Et il leur a donné un nom, il les a appelés le Qadariya. Mais en opposition, il a donné à son groupe. C'est qui son groupe? C'est tout l'Umma al-Islamiyya. Tout le corps de l'Umma al-Islamiyya, il leur a donné le nom de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, tout corpuscule, toute personne qui dérive de ce corps qui se compte par millions, celui qui sort de ce groupe-là, eh bien, il ne prend plus le mot de Al-Sunnah al-Jama'a, et selon la gravité de la dérive, selon la gravité de l'égarement, ils peuvent sortir de l'islam, comme ils peuvent ne pas sortir de l'islam, mais on les appelle quand même des gens égarés. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le corps de l'Umma al-Islamiyya, il restera grand, il restera puissant, il restera, mais il y a des dérives, il y a des gens qui vont dériver, qui vont s'écarter. Ça a existé autant de Sahaba, juste après Sahaba, et le long de tous les siècles, il y a eu des dérives, et ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter, ça continuera, mais ce qui va continuer encore, et encore jusqu'à la fin de temps, c'est que le corps de l'Umma al-Islamiyya, il restera intact. Ce corps de l'Umma al-Islamiyya, qui se compte par milliers, Nabi alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le hadith al-Sahih, الذي رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم من المسلمين عليكم بالسواد الأعظم من المسلمين صار ذيك واحد السواد الأعظم يعني le grand corps de l'Umma al-Islamiyya même s'il y a des gens qui se détachent de ce corps et bien le corps de l'Umma al-Islamiyya il restera grand en quantité et en qualité. عليكم بالسواد الأعظم من المسلمين. Et donc les dérives, elles se font à quel niveau? Bien sûr, au niveau de l'aqida, l'i'tiqad. La divergence, elle se situe au niveau de l'i'tiqad, au niveau de l'aqaïd. Et à partir de ce moment-là, à partir du temps de Sahaba, on a commencé à utiliser ce terme qui est venu utilisé par Sayyidina Abdullah ibn Omar, qui est donc Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Jama'a pourquoi? Parce que c'est le corps de l'Umma al-Islamiyya. Donc c'est le groupe qui est resté donc groupé. C'est pour ça qu'on dit al-Jama'a. Et le mot Sunna, il vient de tous les hadiths qui parlent de Sunna. Alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa al-rashidin al-mahdi la min ba'di. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Sunnati. Voilà, kitab Allahi wa sunnati. Donc ces hadiths-là, c'est ça qui montre que un sunni, c'est celui qui est resté attaché dans les fondements, dans l'aqida, dans l'i'tiqad, qui reste attaché au grand corps de l'Umma al-Islamiyya, c'est ce qu'on appelle as-sunni. Et le mot sunna ici, il est utilisé, comme on l'a défini au tout début, celui qui reste attaché à Nabi alayhi salatu wasalam, en particulier et d'une façon très attachante à l'aqid al-islamiyya. Voilà donc que vous voulez dire comment le mot sunni a été utilisé pendant 14 siècles, jusqu'au début du 20e siècle, la fin du 19e siècle, où le mot sunni a été chamboulé. Et qu'est-ce que maintenant, quand on dit le mot sunni, qu'est-ce qu'on comprend dans le mot sunni? Après l'asr, il n'y a plus de la fila. Alors l'autre, il vient, il rentre après ça, l'asr, le masjid, Allahu Akbar, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tahiyat le masjid. Ah, il dit, c'est le sunni. Pourquoi? Parce qu'il fait tahiyat le masjid après salat l'asr, il dit, c'est le sunni. Et l'autre, celui qui ne fait pas salat l'asr, ah, lui, il n'est pas sunni. Pas d'un doux l'hayat ou il a? Tu veux dire, sarra, ah, c'est sunni. Tu veux dire, sunna. D'accord? Donc, faites attention. Sunni, le terme a été posé par Sahaba, il a été repris par tous les savants à l'unanimité. Il a été repris par Tabi'in. Saïd ibn Musayyib l'a utilisé. Omar ibn Abdel Aziz l'a utilisé. L'Aïm al-Arba al-Imam Malik, on trouve ça dans les livres d'Imam Malik, dans les livres de Shafi'i, dans tous les savants de l'islam, à l'unanimité, ils ont repris ce terme-là. Ils l'ont pris avec ce sens-là, et tous ceux qui n'étaient pas égarés, tous ceux qui n'étaient pas dans l'égarement, tous ceux qui n'appartenaient pas à Al-Mu'tazila, ou Shia, ou Al-Khawarij, ou Al-Qadariya, ou Al-Jabriya, ou je ne sais trop quoi, alors, ils faisaient partie de Al-Sunna et on l'appelait Sunni. Voilà ce que veut dire le mot Sunni. C'est une chose qui est, donc c'est un concept qui est extrêmement important. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe de gens qui se disent savants et qui émettent des fatwas. Le fatwa, c'est, tout à l'heure on a parlé de fiqh, il y a des choses qui sont des constantes et il y a des choses qui ne sont pas constantes et sur lesquelles il y a divergence. Dans le domaine où il y a divergence, ces divergences ont existé au temps de Sahaba. Abdullah ibn Mas'ud, des fois il divergeait avec Abdullah ibn Omar, ni l'un ni l'autre ne disait de l'autre qu'il n'est pas sunni. Pourquoi? Parce que ça fait partie de furu' al-Sharia. Et furu' al-Sharia, la divergence, elle est tolérée, sinon voulue. Et lorsque les gens divergent dans ce domaine-là, bien précis, personne n'a le droit de dire que l'autre a faux, parce que moi j'ai juste lui la faux. Personne n'a le droit de dire que moi, mon ijtihad fait partie de sunnah et l'autre c'est pas sunnah, c'est du rien du tout. Sinon, les sahaba, ils n'ont jamais fait ça. Les tabi'in, ils n'ont jamais fait ça. Les aïm al-arba'a, ils n'ont jamais fait ça. Wa hakada jusqu'à nos jours, jusqu'au fameux 20e siècle, quand on a commencé à voir un certain nombre de gens, quand ils émettent un fatwa, même sur le fait, par exemple, de faire comme ça, Allahu Akbar, je prie comme ça ou je prie comme ça, wa hakada, sunnah ou hadi bashi sunnah. Le mot a été complètement déformé. Donc le terme, il faut le comprendre, il faut savoir ce qu'il veut dire, d'une part. D'autre part, quand on diverge dans furu' al-sharia, il ne faut la yajuz haramun inda jami' al-ulama. Tous les savants sont unanimes sur ça, haram, de dire que mon ijtihad à moi, c'est sunnah, et l'ijtihad de l'autre, c'est quoi alors? Abdullah ibn Omar, son ijtihad, c'est sunnah. Et l'ijtihad d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est quoi? Abu Bakr al-Siddiq avec Omar ibn al-Khattab. Ils ont eu des problèmes après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils ont émis des fatwas. Et ils n'ont pas été d'accord sur tout. Abu Bakr al-Siddiq a divergé avec Omar ibn al-Khattab. Ni Abu Bakr n'a dit tu n'es pas sunni à Omar, ni Omar n'a dit tu n'es pas sunni à Abu Bakr. Et tous les deux se reconnaissaient dans le corps de l'Ummah al-Islamiyya. La divergence, elle se faisait à quel niveau? Au niveau de furu' al-sharia, au niveau de fiqh, au niveau enfin dans le domaine où la divergence est tolérée, dans le domaine où la divergence était voulue, dans le domaine où la divergence était acceptée. Mais jamais dans le domaine où la différence n'était pas acceptée, comme par exemple l'aqida. Lorsque on diverge dans l'aqida, à ce moment-là, il n'y a plus de sunna, il y a sunna ou pas sunna. Est-ce que ces choses-là sont... Maintenant, je vais juste poser le problème et on continuera la prochaine fois, inshallah. Quand on dit sunna, ou l'ahl sunna, comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme on l'a défini tout à l'heure, ahl sunna ou al-jama'a, Lorsque le Nabi a dit, donc le hadith qu'on avait cité, Alikum bissawad al-a'zami min al-muslimin. Dans ce hadith, on a des enseignements. Premier enseignement, c'est que la quasi-totalité des musulmans font partie de Al-Sunna wal-Jama'a. Toutes les autres parties qui sont sorties de Al-Sunna wal-Jama'a ne sont que des poignées de gens éparpillés ici et là. Même s'ils se comptent par milliers, qu'est-ce que vaut quelques milliers devant plusieurs millions de musulmans, disons même milliards de musulmans? Al-Khawarij, ils sont combien de pourcents dans le monde entier? Les Mu'tazila, ils sont partis. Alhamdulillah, hannana min mashakil. Al-Jabriya kadhalik. Et ils se sont comptés par combien? Quelques. Donc en quantité, jamais, des autres parties que Al-Sunna n'ont été nombreux dans toute l'histoire, et ça continue. Donc lorsque Nabi Al-Sunna dit La alaykum bis sawad al-a'zam, le sawad al-a'zam c'est Al-Sunna wal-Jama'a, et ils ont toujours été comptés plus de 95%. Et on va dire Shia par les Shia qui sont les plus nombreux donc dans l'histoire et jusqu'à présent, ils ne dépasseront jamais les 10%. Et que vaut 10% devant 90%. Donc, alaykum bis-sawad al-a'zam wal hadith as-sahih, comme on a dit, le hadith est authentique. Sinon, ni en quantité ni en qualité, les grands hommes de l'islam n'ont jamais été que de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et ça, on essaiera de développer ce point-là ultérieurement. Deuxième point, quand on se déclare de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, il y a Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde, les gens qui n'ont pas la science, etc. Ahl-Sunnah, ils sont tous parmi Ahl-Sunnah wal-Jama'a. C'est le fait d'appartenir à, dans l'aqidah bien sûr, il s'agit bien de l'atiqadat, appartenir à cette aqidah qui a été instaurée par Nabi alayhi salatu wassalam, qui a été suivi par des milliards de personnes jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Maintenant, quand il s'agit des savants, appartenir à Ahl-Sunna wal-Jama'a, ça veut dire appartenir aussi dans tous les concepts de l'aqida, mais ça veut dire aussi, et c'est très 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 important, parce que maintenant il s'agit des savants, mufti, pas mufti, mujtahid, muhaddith, kada, usuli, etc. C'est-à-dire appartenir à aussi à des règles. Celui qui fait l'ijtihad, celui qui se donne à commenter les versets ou à commenter sunna, Ahl-Sunna wal-Jama'a, ils sont connus aussi dans la communauté des savants par une façon de faire. Cette façon de faire, c'est cette façon de faire qui se trouvait dans la tête de Abu Bakr Siddiq, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a formé. C'est cette façon de faire et cette façon de penser et cette façon de voir qui était dans la tête de Sidna Omar ibn al-Khattab. C'est cette même façon de faire et de voir et de concevoir qui était dans la tête de Sidna Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib, de Abdullah ibn Omar, de Abdullah ibn Mas'ud, de Abdullah ibn Abbas, et donc tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Cette même façon n'a pas disparu. Rappelez-vous, Allah Azza wa Jalla nous a promis que l'islam restera. Cette même façon de comprendre les choses a été transmise à ce qu'on appelle tabi'in. C'est cette façon qui se trouvait dans la tête de Sa'id ibn Jubayr, de Sa'id ibn al-Musayyib, de Kharijat ibn Zayd ibn Thabit, de Sa'il ibn Abdullah ibn Umar, de Hassan al-Basri, de Muhammad ibn Sirin, et ainsi de suite, de Al-Qama et de tous les élèves qui ont eu la chance de voir Sahaba, et Sahaba, ils n'ont pas manqué à leur devoir. Chacun de ces Sahaba ont formé des centaines, voire des milliers de gens qui sont devenus dans de très 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 haut niveau de science. Abdullah ibn Mas'ud, à lui seul, il a formé plus de 4000 de ses élèves qui sont tous dans un très très haut niveau de science. À lui seul. Abdullah ibn Abbas, c'était lui-même une université. À lui seul. Il donnait des cours de tarikh, il donnait d'histoire, des cours de langue, des cours de tafsir, des cours. À lui seul, il a aussi des centaines d'élèves. Ce qu'on appelle par exemple le fuqaha al-sab' fil Madin al-Munawwara, les sept savants de Médine, qui sont tous de tabi'in, Saïd ibn Jubayr, wa Kharij ibn Zayd, wa Urwa ibn Zubayr, etc. Ce sont les gens qui ont porté cette façon de faire et cette façon de voir. Après eux, il y a eu la relève. Et cette relève, c'est bien les gens que eux-mêmes ont formés. L'imam Zuhri, Abdurrahman ibn Rabi'a, l'imam Al-A'raj, Abdurrahman ibn Hormuz, ainsi de suite, à Médine. Et d'autres, Atta ibn Abi Rabah, à Mecca, et d'autres, donc Al-Qama, Ibrahim al-Nakhi, وهكذا وحمد بن أبي سليمان في الكوفة سوسون أو كي تي لو سيمبول دو أهل السنة والجماعة دون كوا دون العقيدة كيلز افي مي أوسي إي سورتو دون لوغ فاصون دو فوار لي شوز دون لوغ فاصون دو كومبروندر سيت ميم فاصون أ إيتي ترانسميز جينيراسيون أبري جينيراسيون إي سيت ميم فاصون دو فوار كونتينيورا إلى يوم القيامة. Ça, c'est une chose qui doit être claire dans sa tête, dans nos têtes. Et si après la génération de Tabi'in, l'imam Soufiane Thawri, l'imam Soufiane ibn Uyayna, l'imam Al-Layth ibn Sa'd, l'imam ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, l'imam Malik, l'imam Al-Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, et j'en passe. Si ce n'est pas ceux-là qui représentent Al-Sunnah ou Al-Jama'a, c'est qui représente Al-Sunnah ou Al-Jama'a dans la façon de voir et dans la façon de réfléchir? C'est qui alors? Ces gens-là ont transmis et leurs sciences ont été développées, la transcription elle a été faite, écrite, travaillée et elle a été propagée le long des siècles et nous allons développer tous ces points-là, inchallah, dans les cours qui viennent, avant d'entamer, parce que c'est quand même très important, et ça fait partie des concepts essentiels, puisqu'on parle de l'aqida. Donc on va essayer de développer tous ces concepts-là, حول inchallah, نفهم هذه الأمور, حتى لا نضيع, حتى لا نزيغ. Comme ça, on ne s'égare pas. Comme ça, on sait qui on est. Comme ça, on a nos repères. Ensuite, il y a ce concept de Al-Sunnah al-Jama'a, où Allah Azza wa Jalla, ce concept il a été aussi extrait du verset qu'on avait cité la dernière fois, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, quiconque se détourne du prophète, وَيَتَّبِعْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهَا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا. يعني الله عز وجل nous dit, celui qui suit un autre sentier que celui des croyants, eh bien, il ne sera pas accepté. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. C'est qui? C'est Ahl Sunnah wal-Jama'a. C'est comme ça que le verset a été interprété. Maintenant, les gens qui se sont écartés de Ahl Sunnah wal-Jama'a dans l'histoire, tous, sans exception, à l'unanimité, ils ne se disaient pas Ahl Sunnah al-Jama'a. Ils étaient contents de se dire, on n'est pas de Ahl Sunnah al-Jama'a. Shia, ils dénigraient Ahl Sunnah al-Jama'a. Al-Khawarij, kif, la même chose. Al-Marji'a, Al-Hashawiyya, tous les gens qui ont dérivé, ils étaient là à dénigrer Ahl Sunnah al-Jama'a. Quand ils parlaient de Ahl Sunnah al-Jama'a, c'était pour dénigrer. Al-Sunnah al-Jama'a, quand il parlait de ce terme-là ou de ce concept-là, c'était pour se vanter. Et tous ne se disaient pas d'Al-Sunnah al-Jama'a, je parle des gens qui se sont écartés, jusqu'à nos jours. De nos jours, le problème, c'est qu'il y a des gens, des corpuscules qui se sont formés, il y a des gens qui se sont égarés, qui ne font pas partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a dans leur façon de voir, dans la façon de réfléchir, mais qui malheureusement se disent « Nous sommes Al-Sunnah ou Al-Jama'a » et tout le reste, il a fou. Donc là, c'est une double difficulté. Donc on aura l'occasion, inchallah, de développer tout ça avec l'adilla, avec tout ce qu'il faut. Et maintenant, je laisse la parole s'il y a des questions, s'il y a encore deux ou trois questions, et on arrête, inchallah, pour ne pas être long.